Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui notre première émission consacrée à la sexualité. Cette rentrée, ce sera pour vous, hein, auditrices et auditeurs, l'occasion de poser les questions de votre choix, de témoigner, d'aborder tous les sujets qui vous préoccupent, qu'il s'agisse des débuts de votre vie sexuelle, pas toujours facile, pas toujours évident. Vous pouvez également nous parler des difficultés de couple, les différences entre vous, des moments parfois moins faciles en raison des circonstances, une grossesse, une naissance, une opération. Questions liées aussi à l'âge, la ménopause. Quand on vieillit, comment ça se passe? Diverses facettes associées à la santé sexuelle, la contraception, les traitements, quand on est atteint par exemple d'une maladie chronique, comment ça peut jouer sur la sexualité? Et puis bien sûr, les sentiments, on les oublie pas. Les émotions, l'éducation à la santé, les tabous sexuels, toutes vos questions et tous vos témoignages sont bien sûr, comme chaque jour, bienvenus.
Priorité santé sur RFI.
Émission complète pour poser ces questions au docteur Catherine Solano, sexologue, qui est avec nous pour vous écouter, vous conseiller. Docteur Solano, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour toutes nos auditrices et tous nos auditeurs.
Alors 50 minutes, on va échanger sur ce thème, hein. Complètement ouvert, question libre, docteur Solano. Est-ce qu'on voit déjà sur les questions qu'on a depuis 48 heures ou 24 heures sur Facebook, il y a certains sujets qui reviennent très souvent, d'autres plus rarement. Est-ce qu'on voit aussi vraiment, c'est que les hommes sont plus nombreux à se manifester. Les femmes, elles, sur la page de l'émission, sont plus discrètes. Comment vous l'expliquez ?
Mais je l'explique parce que déjà, c'est quelque chose d'assez naturel de manière sociale. C'est qu'on demande aux femmes d'être plus discrètes que les hommes. Vous voyez, c'est souvent eux qui prennent la parole un peu partout. Partout, plus que les femmes. Donc, ben, elles se conforment à ça. En plus, je pense qu'elles osent quand même moins appeler. Il y a aussi des femmes qui ont peur qu'on les reconnaisse, vous voyez, qu'on parle après, qu'on dise, oh, est-ce que tu as vu? Et donc, moi, quand j'entends ça, je me dis, c'est vraiment dommage parce que, vous voyez, moi, en consultation, je peux vous dire que j'ai autant de femmes que d'hommes. Donc, ça n'est pas du tout parce qu'elles ont moins de questions, ni parce qu'elles sont moins intéressées par la sexualité.
Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire aux auditrices pour qu'elles dépassent leurs réserves? Et qu'enfin, eh bien, on puisse dire ah bah il faudrait faire parler un peu les hommes parce que les femmes sont vraiment très nombreuses alors qu'aujourd'hui on va dire que c'est l'inverse.
Voilà. Eh bien, ce qu'il faut peut-être, c'est déjà leur dire appelez-nous, on sera très content de vous avoir à l'antenne. Ensuite, de leur dire si vous voulez prendre un faux prénom ou nous dire que vous habitez une autre ville, ça ne gêne pas, parce que notre but c'est de vous répondre au mieux et aussi d'aider d'autres auditrices. Quelquefois, on a envie d'appeler en se disant bah ça va servir à plein de personnes. Parce que j'ai des copines, des sœurs, où je sais qu'il y a plein de femmes qui ont le même problème et personne n'ose poser la question. Donc,
c'est vrai que des fois, on se dit, je suis toute seule à être confrontée à cette question et finalement, on se rend compte qu'autour de nous, bah, c'est pas le cas.
Ah oui, alors je pense par exemple au problème du vaginisme chez les femmes, c'est-à-dire qui ont une pénétration impossible pendant les qui essayent d'avoir des rapports sexuels et ça marche pas. Presque toutes, elles disent, mais je croyais que j'étais toute seule à avoir ce problème, alors qu'on sait que c'est pas loin de 5% des femmes qui ont ce problème. Donc, ça fait beaucoup de femmes. Et quand elles l'apprennent, ça les soulage énormément. Donc, si vous nous appelez, déjà, ça vous rassurera peut-être, ça vous donnera des pistes et ça aidera beaucoup d'autres personnes.
Docteur Karine Solano, sans plus tarder, on va retrouver les questions, les témoignages des auditeurs de Priorité Santé.
RFI.
Et comme un démenti à tout ce qu'on vient de dire, une femme en ligne, c'est Michel qui nous appelle du Congo-Brazzaville de Pointe-Noire. Bonjour Michel.
Bonjour docteur.
Enchantée de vous parler, Michel. Alors, le docteur Solano, bien sûr, l'œil grand ouvert, les oreilles à l'écoute. Allez-y.
Voilà, j'ai 32 ans. Je suis maman de deux enfants. Ma première à 4 ans et le second à 5 mois. Mais il s'avère que depuis que j'étais enceinte, j'ai perdu tout désir sexuel. Donc, je me suis dit certainement qu'après l'accouchement, ça va reprendre. Mais ce n'est pas le cas. Je suis toujours froide, ça ne me dit absolument rien. Et aussi, les quelques fois où j'essaie de me détacher un peu, ce n'est pas trop ça, je ne suis pas trop satisfaite. Alors, j'en ai parlé à mon conjoint, vu que nous vivons sous le même toit. il a évoqué la raison que la famille s'est agrandie, du coup, on a presque plus le temps pour nous deux. Je l'ai demandé de faire s'il faudrait qu'on fasse un programme, mais c'est quelqu'un qui n'entend pas ça de cette oreille, quoi. Il est toujours réticent, il se dit, bon, ben, les enfants d'abord, nous, c'est après. Et moi, ça me met en colère, ça m'énerve quelquefois.
Quand vous dites programme, Michel, ça veut dire quoi?
Pardon?
Quand vous dites, je voulais qu'on fasse ensemble un programme, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que si déposer même les enfants chez les grands-parents,
d'accord, de s'organiser,
un peu du temps
de
pour
s'organiser.
Nous deux, voilà.
Je comprends.
Ouais, mais c'est quelqu'un qui n'entend pas ça comme ça. Et donc,
Michel, c'est que finalement, vous nous dites, j'ai pas très envie, mais par contre, ce dont vous avez envie, c'est que ça recommence.
Oui, oui, voilà, c'est un peu ça. J'aimerais que ça reprenne comme avant. Et voilà, et donc je voudrais savoir qu'est-ce qui bloque. Est-ce que le stress peut être la cause? Si on peut avoir ce manque de désir sur une longue période. Voilà un peu.
J'ai juste questions. Une petite question avant, bien sûr, de donner la parole à Catherine qui est très intéressée par votre question. L'accouchement, il s'est bien passé?
En tout cas, l'accouchement s'est très très bien passé, sans problème.
D'accord. Catherine Solano.
Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. La première chose, c'est que c'est très intéressant ce que vous décrivez, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent, après une grossesse, quand une femme a un nouvel enfant, eh bien, elle me délaisse et s'occupe des enfants. Et là, on voit que c'est votre mari qui fait ça. C'est qu'il dit, bah, notre couple, ok, mais c'est d'abord les enfants, c'est plus important. Alors, c'est embêtant. Le bon côté, c'est que c'est un homme qui s'occupe de ses enfants et qui a envie que ses enfants soient bien. Je dirais que, il y a une chose très importante que vous pouvez lui dire à ce niveau-là, qui peut faire changer son attitude, c'est lui dire, tu sais, ok, les enfants, c'est important. C'est vrai qu'un enfant de 5 mois, ça doit être prioritaire par rapport aux adultes, parce que ça a des besoins. Quand il a faim, il a faim. C'est pas comme vous pouvez attendre 5 minutes pour manger, lui, il va crier, quoi. Voilà, c'est différent. Mais il faut lui dire une chose, tu sais, quand un couple est heureux, ses enfants sont heureux. S'il y a des tensions dans les parents, même si on s'occupe s'il y a des tensions entre les deux parents, même si on s'occupe énormément des enfants, ben ils sentent ces tensions et ils sont beaucoup moins bien. Donc même pour nos enfants, c'est peut-être très important que tu prennes du temps pour moi aussi. Vous voyez, est-ce que ça vous pourrez le faire? Je pense qu'il l'entendra très bien.
Oui.
Voilà, ça c'est important. La deuxième chose, c'est que ça fait seulement 5 mois que vous avez accouché. En fait, c'est très court. C'est très chouette que après votre premier enfant, vous ayez retrouvé le désir assez rapidement et que ça fonctionne, parce que ça arrive, ça se produit, ça dépend des cas, ça dépend des grossesses, ça dépend des couples, ça dépend des femmes et des hommes, etc. Mais très souvent, il faut plus que 5 mois pour retrouver du désir. C'est assez fréquent qu'il faille 6 mois. Parfois, il y a des femmes qui disent, il m'a fallu quasiment 1 an pour retrouver du désir. J'ai entendu, je connais une dame aussi qui m'a dit, moi, à chaque grossesse, elle a 5 enfants. Il m'a fallu 2 ans. Et elle me disait, c'est très long, mais elle me disait, c'est bizarre, un matin, je me réveille et je me dis, ça y est, c'est revenu. À chaque fois, ça lui fait ça. Son mari dit, c'est long, mais je sais que ça revient. Voilà. Je vous dis pas que ça va durer 2 ans chez vous, c'est pas ça, mais je veux dire, 5 mois, c'est encore très court pour que votre corps reprenne son rythme. Aussi, une chose, quand vous dites, je veux que ça revienne comme avant. Une chose est sûre, c'est que ça n'est pas possible. Quand on a 1 ou 2 enfants, il y a des réadaptations à faire. Ça ne revient pas comme avant. Enfin, quand je dis comme avant, il y a des adaptations. Alors, aussi, encore une autre question que Caroline me fait signe, parce qu'à force de m'entendre répondre, elle pourrait presque répondre à ma place.
Je suis une curieuse.
Est-ce que vous allaitez votre bébé?
Oui.
Voilà, ça c'est chouette. Alors aussi, quand on allaite le bébé, il y a moins de désir. C'est surtout les premiers mois d'ailleurs, parce que ça fait monter des hormones qui s'appellent, une hormone qui s'appelle la prolactine, qui est une hormone anti-désir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand un papa s'occupe beaucoup des bébés et des enfants, lui aussi, ça fait monter un peu sa prolactine, donc il a moins d'envie. Donc ça explique aussi peut-être qu'il soit plus sur les enfants et moins sur vous, si on peut dire, si je peux utiliser cette expression.
D'accord.
Voilà. Donc mais ceci dit, quand on continue l'allaitement, même si on continue 1 an ou 2, comme c'est conseillé par l'OMS, 2 ans, la prolactine baisse le lait se produit automatiquement sans avoir besoin de haut taux de prolactine. Donc, c'est pas parce qu'on allait longtemps qu'on n'a pas de désir. Ça, faut le savoir quand même. Mais ensuite, il n'y a pas que ça, il y a aussi votre contraception. Est-ce que vous avez une contraception depuis
votre... Non, non, pas encore. Non, pas encore.
Pas encore. Ok, donc si vous n'avez pas de contraception, ben, il faut savoir que vous pouvez avoir une grossesse, surtout si vous... Enfin, ça dépend. Quand on allaite pendant 6 mois, ça peut empêcher une grossesse si l'allaitement est...
Exclusif.
Si on allaite aussi la nuit, hein, s'il n'y a pas beaucoup de périodes entre deux tétés, et s'il n'y a pas de règles qui sont revenues. Mais si vous ne voulez pas un troisième tout de suite, il faut penser à une contraception. Et je vous posais la question parce que des fois, il y a certaines contraceptions, en particulier hormonales, qui peuvent bloquer le désir aussi chez certaines femmes. Donc, ça peut être une cause. Bon. Ensuite, il y a une autre cause aussi, et ça, je pense que vous en avez un petit peu parlé, c'est la fatigue. Parce que quand on est, si vous voulez, quand on a 2 petits-enfants, 4 ans et 5 mois, plus un travail, plus un mari qui fait pas forcément tout à la maison, eh bien, ça accumule la fatigue. Et la fatigue, c'est anti-désir. C'est comme si le corps se disait, bon, ben, moi, faut que je garde mon énergie pour ce qui est vital, hein. Et la sexualité, c'est un petit peu, comme on dit, une fonction de luxe. Ça vient après, surtout quand on a déjà un bébé, votre corps se dit, bon, j'ai déjà fait mon travail, peut-être. Il est pas forcément sa priorité. Vous voyez, c'est de survivre dans votre environnement. Du coup, ce que je vais vous dire qui est vraiment important, c'est que on sait que dans les couples où le mari participe aux tâches ménagères, ben, les femmes ont plus de désirs et les couples ont davantage de rapports sexuels. Parce que si vous voulez, quand tout repose sur madame, le ménage, les courses, la vaisselle, la lessive, le repassage, la toilette des enfants, etc., etc., ben, il y a un moment, elle est au bout du... Enfin, si vous voulez, elle a plus de temps pour la sexualité. Et encore, vous, on sent très bien que vous avez envie de donner du temps à votre sexualité. Donc, votre mari, il a une chance, une grande chance d'avoir une femme comme vous, je peux dire.
Michel, vous en tirez quoi de tous ces conseils, de toutes ces explications du docteur Solano?
En tout cas, je suis très, très ravie. Je suis très, très contente, en tout cas. Vraiment, ça m'a beaucoup aidée.
Ça vous a éclairé, vous avez compris des choses.
Oui, oui, surtout au niveau de la fatigue. Oui, je me rends compte de ce qu'il dit quelquefois le soir. Il est fatigué. Bon, moi, je prends ça très, très mal, mais...
C'est une réalité. C'est une réalité.
Oui.
Ben, on vous remercie beaucoup, Michel. Et peut-être à bientôt, hein, à l'antenne de RFI. On va partir tout de suite pour la Guinée, pour Conakry, avec Mamadou en ligne avec nous. Bonjour, Mamadou.
Bonjour, madame.
Alors, rapprochez-vous bien du téléphone parce que vous avez l'air un petit peu loin. Je sais que vous êtes à Conakry, mais on a envie de bien, bien vous entendre. Alors, le docteur Solano est à votre écoute. Racontez-nous.
Voilà. Madame, j'ai 27 ans. J'ai un problème de masturbation. Depuis presque 2 ans, je favorise la masturbation que de faire l'amour avec ma petite amie. Mm-hmm. Et là, ça devient un problème. J'aimerais savoir ce que je dois faire pour éradiquer ça, parce que ça commence vraiment à jouer sur notre couple.
Vous lui en avez parlé à votre amie, ou elle sait que vous pratiquez la masturbation, ou vous gardez ça secret pour vous?
Je garde ça secret parce que je suis un peu honteux pour moi de l'avouer de ça.
Vous avez honte.
J'avais un peu peur de l'expliquer parce que mais ça, nous ici, ça parler de masturbation, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas.
Bien sûr, c'est difficile et c'est pour ça que quand on a RFI sous la main le jeudi avec le docteur Solano, c'est le moment de sortir un petit peu de ces tabous. Ça veut dire que vous avez moins envie de faire l'amour avec votre ami?
Oui, madame.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à Mamadou, docteur Solano?
Et alors, comment ça se passe quand vous avez une relation sexuelle avec votre ami? Est-ce que
de
ça
quoi,
se passe bien?
Oui, ça, avant, ça s'est passé très bien. Et maintenant, quand on passe, des fois, j'ai envie qu'elle me fasse une petite bralette, quoi, pour me rappeler de la masturbation. Et puis, j'associe à cette masturbation à la pornographie. Peut-être c'est ça le problème. Parce que j'en ai parlé avec un ami, il m'a expliqué que voilà, comment la pornographie, c'est pas bon de l'associer à la masturbation. Il m'a demandé de vous appeler pour prendre. Ouais.
Alors déjà, je vous remercie beaucoup de nous appeler parce que je sais que c'est pas évident. Comme vous dites, j'ai honte de faire ce genre de pratique, etc. Donc c'est chouette que vous nous appeliez parce que ben il faut du courage pour ça. Donc ce que je peux vous dire, c'est que votre ami, il a raison. Parce que en fait, quand on regarde de la pornographie, alors déjà quand même, je vais vous dire une chose, la masturbation, c'est quelque chose de très banal que presque tous les hommes, je crois que c'est 97% des hommes à 18 ans ont déjà essayé au moins une fois. Donc, vous voyez, presque tout le monde connaît ça. Après, à l'âge adulte, ça dépend beaucoup des hommes. Il y en a qui pratiquent la masturbation 2-3 fois par semaine. D'autres qui disent, oh, moi, ça m'intéresse plus, je le faisais quand j'étais ado. D'autres qui, quand ils deviennent célibataires, après une séparation, par exemple, bah, la pratiquent en attendant d'avoir une partenaire et arrêtent. Donc, c'est assez variable, mais c'est quelque chose d'universellement répandu et qui est pas forcément très gênant. En revanche, quand on regarde de la pornographie, il y a un problème, c'est que ça modifie le cerveau. Le cerveau s'habitue à voir des images pornographiques qui sont pas du tout naturelles parce que c'est pas du tout des rapports normaux. C'est-à-dire qu'un homme peut, avec la pornographie, voir 18 femmes dans diverses positions, chose qu'il aura jamais 18 femmes nues dans sa chambre le soir quand il va se coucher. Donc ça fait une excitation qui est pas du tout naturelle, qui est quelque chose d'artificiel. Résultat, quand le cerveau est habitué à ça et qu'il se trouve dans une situation amoureuse avec son ami, eh ben, il se dit, oh, c'est pas terrible, il y a qu'une femme, elle veut juste me faire des caresses, bof, c'est pas la peine de se mettre en route. Et du coup, ça marche moins bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, ce que vous disait votre ami, c'est-à-dire qu'il faut débrancher pendant au moins 2 ou 3 mois et ne plus regarder de pornographie. Ça veut pas dire que vous pouvez pas pratiquer la masturbation, mais quand vous êtes seul, l'idéal, c'est de la pratiquer en pensant à votre ami. Et alors, moi, ça fait des années que je donne ce conseil et beaucoup de mes patients me disent, écoutez, Madame Solano, je vais vous dire franchement, il vaut mieux arrêter la pornographie et pendant un temps, arrêter la masturbation. Parce que quand on est habitué à la pornographie, au début, on continue à se faire des films dans la tête sur les images qu'on a vues et beaucoup de patients m'ont dit, on a l'impression que ça continue à entretenir ce fonctionnement basé sur la pornographie. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart de mes patients me disent, quand on arrête quelques semaines, disons 5 semaines, on sent déjà que ça va beaucoup mieux. Donc,
est-ce que vous vous sentez prêt, Mamadou, à faire une petite pause sur vos pratiques habituelles?
Oui, je vais essayer de voir.
Vous allez essayer
parce
de voir.
Je vais me débarrasser de ça. Vraiment, ça commence à devenir une maladie pour moi.
Je ne pense pas que le docteur Solano dise que ce soit vraiment une maladie. En tout cas, pour vous, ça vous gêne. C'est important que vous écoutiez. Mais est-ce que vous vous sentez capable ou est-ce que vous pensez que c'est plus fort que vous?
C'est vraiment plus fort que moi. Qu'est-ce que moi, je dois faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux expliquer ça à ma petite amie que je ne la trompe pas?
Parce qu'elle a peur que vous la trompiez?
Elle m'a même trop demandé parce que des fois elle m'appelle. J'ai même pas envie de la voir parce que j'ai un peu honte.
Ah oui. Alors, écoutez, il faut pas avoir honte parce que je vais vous dire, vous êtes vraiment courageux. Et puis en plus, voyez, ce que vous nous décrivez, en fait, la pornographie, ça crée un peu une addiction. C'est-à-dire que, parce que votre cerveau se dit, ah, votre cerveau, il croit qu'à chaque fois que vous voyez des images pornographiques, il y a une possibilité de faire un bébé. Parce qu'il voit des femmes nues. Il se trompe. C'est ça le truc. C'est que, c'est notre instinct de, comment dire, pour se reproduire, de reproduction, qui se met en route. Alors qu'on le trompe, évidemment, mais à la préhistoire, il n'y avait pas de film pornographique. Donc là, un homme voyait une femme nue, c'est qu'elle était OK pour avoir un rapport sexuel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il est trompé par ça. Et donc, il croit qu'il a une chance d'avoir quelqu'un qui l'aime et d'avoir un bébé. Voilà. Donc, il faut carrément couper ça. Mais donc, c'est une espèce d'addiction. Mais c'est quand même pas une addiction comme un produit dopant. Donc, c'est quand même plus facile d'arrêter. Et il faut bien que vous ayez conscience de ça, c'est que c'est pas une question d'être quelqu'un qui n'est pas une personne bien, correcte, sérieuse. C'est vraiment quelque chose que notre cerveau, qui trompe notre cerveau. Et donc, en gros, il faut dire à votre cerveau, écoute, on te trompe, il faut que tu sois dans la réalité. Et en plus, bon, c'est une espèce d'addiction, mais vous en êtes déjà en partie sorti. Parce que la vraie addiction, c'est quand on nie le problème. Et vous vous rendez compte que vous en avez un. Donc, vous avez déjà fait le premier pas. Et donc, je vous encourage vivement et je vous déconseille d'en parler à votre ami. Je vous le dis franchement, parce que souvent, les femmes comprennent pas très bien ça et elles pourraient le prendre mal. Je pense que c'est plutôt à vous de gérer ça, franchement. Enfin, c'est mon avis.
En tout cas, vous en avez mis le souhait. Vous avez envie de changer. On vous dit bon courage, Mamadou, et très bonne journée à Conakry. On part pour Lomé, pour le Togo, où nous retrouvons Lydie. Bonjour Lydie.
Bonjour.
Bonjour Lydie.
Alors, Catherine Solano vous écoute. Allez-y.
D'accord. Oui, Moi, mon problème est que ça fait quelques mois, j'ai des problèmes que je n'arrive plus à jouir lors des rapports sexuels. Je demande même à mon partenaire de prolonger un peu les caresses, mais ça ne donne rien. Ça ne donne rien et parfois, il s'énerve, mais parfois, il me demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais on n'a pas tellement un différent qui me pousse jusqu'à cet endroit parce que c'est seulement quelques soucis de famille que j'ai de passage. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire.
Lydie, la situation a changé par rapport à avant? Il y a des choses qui se sont bouleversées?
Je vois que ça fait 2 mois. J'ai été à l'hôpital, j'ai fait un PV aussi, où on m'a trouvé un vaginite candidat, quelque chose comme ça. Et puis je me dis, m'a prescrit tellement de médicaments que j'ai seulement pris quelques-uns. Mais je n'ai pas tellement de problèmes.
Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Quel médicament, pourquoi précisément?
Pardon?
Quel médicament on vous a prescrit pour quelle indication? J'ai pas bien compris.
Je n'ai pas tellement les noms, mais j'ai au moins un.
Oui.
Candida 150 mg.
Est-ce que ça veut dire que vous avez une candidose, un candida? C'est-à-dire une mycose, un champignon, enfin une mycose, c'est ça?
Oui.
D'accord, parce que ça, c'est pas très grave, un petit traitement, et puis ça passe. Mais par contre, on peut avoir des douleurs au début, ça peut brûler un petit peu. Vous avez peut-être une...
Oui.
D'accord.
D'accord, ça, ce n'est qu'un traitement de passage, mais c'est que ça fait depuis presque le début de cette année, hein, que j'ai ce problème de ne pas jouir lors des rapports sexuels.
Mais avant, ça allait mieux.
Oui, avant, ça allait mieux.
Avant, ça fonctionnait.
Mais là, ça fait 2 ans. On est là, ça fait 2 ans, donc avant, ça fonctionnait.
D'accord, et vous avez dit aussi que vous aviez des soucis de famille, j'ai compris.
Oui.
Parce qu'il faut peut-être expliquer ça à votre ami, lui dire, écoute, ça a tout le temps bien marché entre nous, je ne sais pas ce qui se passe, mais déjà, j'ai eu cette candidose. Et des fois, ça pose des problèmes quand on se force un petit peu à faire l'amour alors qu'on a mal, parce que le corps se bloque un petit peu. Donc ça, c'est important de ne pas se forcer quand on a mal ou qu'on a des brûlures. Et la deuxième chose, c'est si vous avez des soucis, votre esprit peut être un petit peu perturbé par ça. Ça peut suffire à bloquer à ce moment-là. Vous lui avez expliqué ça à votre ami?
Oui, il le sait. Il le sait à chaque temps, même quand j'ai un petit différent à la maison ou avec les frères et sœurs, je lui dis et puis je passe à...
Parce que si vous voulez, il y a un truc ici, c'est que les hommes, ils ont une faculté de débrancher et de faire l'amour, même s'ils ont des soucis, etc. Ça leur fait du bien. Alors que les femmes ont plus tendance à avoir plusieurs choses en tête et à avoir plus, un petit peu comme des femmes qui disent quand les enfants pleurent à côté, moi, j'arrive pas à faire l'amour parce que je peux pas débrancher mon cerveau. Et les femmes sont un peu multitâches, comme on dit. Donc, il se peut qu'ils comprennent pas très bien que vous, ça vous perturbe, alors qu'ils disent, il suffit de fermer la porte de la chambre à coucher et puis ça va.
On laisse le bagage à l'extérieur.
Bon, je peux vous donner aussi des petits conseils pour faciliter l'orgasme. Ça va être de muscler votre périnée, c'est-à-dire de quand il y a une pénétration, de serrer vos muscles autour du pénis. Le fait de faire ça plusieurs fois, ça peut faciliter la survenue de l'orgasme. Est-ce que vous faites ça quelquefois?
Non.
Eh bien, essayez. Et la deuxième chose, c'est de faire ce qu'on appelle la bascule du bassin. C'est-à-dire que pendant la pénétration, au lieu que ça soit l'homme qui fait les mouvements de va-et-vient, en même temps, vous vous cambrez, vous vous décambrez. Et la bascule du bassin aussi, ça favorise l'orgasme. Faites pas les deux en même temps parce que serrer et faire la bascule du bassin, c'est dur. Mais essayez les deux techniques. Ça pourrait vous aider peut-être à relancer si votre candidose est vraiment guérie.
Voilà ces conseils, Lydie. On vous souhaite une excellente journée. Allô, mais on reste ensemble, hein, une petite pause en musique avant de retrouver les conseils du docteur Solano. Voyage dans le temps 1975, mais ça marche toujours. Hot Chocolate, You Sexy Thing.
Since you came along, you said something. Where did you come from, baby? How
to thank you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing.
Et on se retrouve sur RFI Priorité Santé, on parle sexualité, toujours en compagnie du docteur Solano. En direct, bien sûr, on répond à vos questions. Alors, on va dire que certaines questions sont peut-être un petit peu plus difficiles à poser que d'autres et demandent de la discrétion, voire de l'anonymat. C'est le cas avec Natacha du Congo Brazza. On l'a pas en direct, elle a enregistré son message, on a modifié sa voix parce que sa question est importante, elle voulait vraiment la poser. Par contre, restez discrète, on va tout de suite l'écouter.
Bonjour Priorité Santé. Bonjour aussi aux auditeurs de la RFI. Je m'appelle Natacha, je suis de Congo-Brazzaville. Mon problème est celui-ci. J'ai mal lors d'un rapport sexuel dans une certaine position. Alors, quand j'ai mal, je n'ai plus de lubrification et je n'ai plus de plaisir et ça ne plaît pas aussi à mon partenaire. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir mal et pour continuer à avoir du plaisir dans un rapport sexuel.
Des douleurs hein, qu'exprime Natacha, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, docteur Solano ?
Eh bien, ce que je peux dire déjà, c'est que c'est pas normal d'avoir des douleurs, a priori. Donc, la première chose à faire, c'est quand même de faire un examen gynécologique et de voir s'il y a une anomalie qui explique cette douleur. Parce que ça serait bête de se forcer ou même d'éviter une position, alors qu'en fait, il y a peut-être quelque chose. Bon, ça, c'est la première chose. Néanmoins, ensuite, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est normal, parfois, d'avoir mal dans une position donnée. Parce qu'on n'est pas tous fait pareil. Et il y a deux jours, j'ai vu un patient qui m'a dit, moi, Madame Solano, j'ai un problème, j'ai mal. C'était un homme, mais c'est pareil pour les hommes ou les femmes. J'ai mal dans une position, quand je suis dessus sur ma partenaire, la position classique. Eh bien, c'est parce que son pénis est courbé vers le bas. Et du coup, ça tire énormément quand il est dans cette position, ça lui fait mal. Et alors, l'inclinaison du vagin, ça se voit pas forcément puisque c'est à l'intérieur, mais c'est pareil pour les femmes. Il y a des postures qui, chez une femme, peuvent faire mal à droite ou à gauche, etc. Et donc, il faut pas se forcer quand on a mal dans une position, même si... D'abord, il faut un examen gynécologique pour savoir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal. Hein. Je dis bien ça avant, c'est important. Donc, c'est important. Ensuite, quand on est le partenaire d'une femme qui a une douleur dans une position, eh bien, la solution, c'est simple. On ne pratique pas cette position avant de savoir s'il y a quelque chose. C'est pas une solution de dire à quelqu'un, mais j'en ai marre que tu aies mal, il faut que t'aies pas mal. Mais oui, mais personne n'a envie d'avoir mal, hein. Donc, elle fait pas exprès. Donc, elle n'y peut rien. Elle a mal. C'est comme ça. C'est peut-être son anatomie. C'est peut-être une anomalie. Donc, on n'insiste pas. Surtout que, visiblement, Natacha dit, j'ai mal dans une position. Ben, il y a beaucoup de positions possibles, hein. Donc, et puis qu'elle a envie d'avoir du plaisir. En plus, j'ai bien retenu une chose, elle dit, lubrification diminue. Donc, si le vagin s'assèche, ça va lui faire encore plus mal. Donc, il faut surtout pas insister. Donc, par rapport à ça, quelquefois, on peut aussi avoir mal dans une position parce que c'est un peu moins agréable, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de lubrification. Donc, il faut utiliser du gel lubrifiant, mais surtout, faire beaucoup de préliminaires pour que la lubrification naturelle soit suffisante, pour que la femme n'ait pas mal. Ça, c'est vraiment très important. Et je vais donner un chiffre. Hein. On estime qu'il faut au moins 20 minutes de préliminaires. Beaucoup d'hommes disent, je fais des longs préliminaires, ça dure au moins 5 minutes. Non, 5 minutes, c'est pas long. C'est plutôt 20 minutes. C'est la moyenne qui a été étudiée pour qu'une femme ait une lubrification suffisante. Donc ça, c'est très important. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est à peu près l'essentiel.
C'était hein, pas mal complet. Je pense que Natacha déjà aura... pas mal d'éléments à apporter justement à ces interrogations. Et on va retrouver le direct avec nos auditeurs. On prend la direction d'Abidjan, la Côte d'Ivoire. En ligne avec nous, c'est Lossénie. Bonjour Lossénie.
Bonjour.
Le docteur Solano est à votre écoute, Lossénie. Allez-y.
Oui, je vous écoute.
Oui, j'ai plus de 30 ans et j'ai obtenu pour l'abstinence. Et je vais me marier avec... une fille qui, elle, a plus de 27 ans aujourd'hui, mais qui a déjà connu une relation. Voilà, donc, moi, j'ai un souci, et c'est le fait que la situation soit comme ça. Est-ce que dans notre vie de couple, cela peut avoir un impact négatif sur l'avenir du couple? Et puis, vu qu'elle a déjà eu des relations, je me dis qu'elle a peut-être eu un rythme dans les relations charnelles. Et donc, est-ce que, étant dans le couple, je pourrais, voilà, s'il arrive que c'est beaucoup plus, mais est-ce que moi je pourrais supporter ou bien je pourrais la satisfaire? Voilà, donc c'est un peu ça.
C'est ça votre question, Lossénie? On peut dire que, est-ce que, bien sûr, le docteur Solano vous parle dans une seconde, vous avez peur de la décevoir?
Voilà un peu ça.
Mmh. Docteur Solano.
Alors, la question, c'est votre amie, elle sait que vous n'avez pas eu de relation sexuelle.
Allô?
Votre amie, votre fiancée, elle est au courant que vous n'avez jamais eu de relation sexuelle pour le moment et que vous attendez?
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, il y a une chose qui est très importante, c'est que déjà... Elle veut se marier avec vous, donc ça veut dire qu'elle vous aime et qu'elle a envie de s'investir dans cette relation. Donc elle est pas du tout. Vous avez peur de la comparaison un petit peu avec l'ami qu'elle a eu avant, mais il y a une chose sûre, c'est qu'elle a envie de s'engager avec vous. Donc elle est pas du tout partie en se disant oh il va peut-être me décevoir, etc. Donc elle est motivée. Donc c'est déjà un point extrêmement important.
Vous en parlez directement avec elle ou pas du tout? C'est quelque chose que vous gardez pour vous, cette inquiétude?
J'avais essayé un moment d'en parler, mais elle a évité de rentrer dans le sujet. Mais bon, je ne suis plus revenu dessus.
Mais elle, excusez-moi de vous poser cette question, Lossénie, mais elle a vraiment envie de vous épouser?
En tout cas, oui.
Elle est amoureuse de vous?
Oui, en tout cas, c'est ce que je sens. J'ai raison, voilà.
C'est ce que vous ressentez, oui, parce que si vous parlez pas, si vous lui dites pas et vous allez vous marier, là, ça fait...
Voilà. Parce que vous savez, dans la sexualité, ce qui est le plus important, c'est pas tellement la technique, c'est plutôt les sentiments. Parce que, d'ailleurs, un patient me disait ça cette semaine, il me disait, ben oui, c'est vrai que quand on est adolescent, les premières relations amoureuses, on prend la main de quelqu'un, on a une émotion tellement forte que, peut-être plus forte que 20 ans après, quand on a un rapport sexuel. Vous voyez, donc il faut surtout pas. Bon, ce que je peux vous dire quand même, c'est que il faut pas poser de questions sur ses expériences passées à votre amie, sur ses expériences sexuelles, parce que elle a pas envie de vous en parler. Peut-être ça c'est plutôt bien, parce que c'est pas la peine qu'elle vous fasse encore plus peur en vous disant lui il faisait ci et ça. Bon, ça c'est vraiment une mauvaise idée. En revanche, si vous lui dites écoute, tu sais, moi j'ai pas d'expérience, toi tu en as, je te demande pas de me raconter quelque chose, mais juste est-ce que tu seras d'accord pour me guider, pour m'aider, pour me dire ce dont tu as envie, etc. Parce que ça me rassurerait si je savais que tu seras aidante, quoi, qu'on le fera à deux, que je serai pas tout seul à me dire c'est moi l'homme et je dois savoir ce qu'il faut faire parce que j'ai pas beaucoup d'expérience. Ça, est-ce que vous pourriez lui dire?
Oui, d'accord.
Voilà. Et vous lui dites aussi, moi j'ai envie qu'on soit heureux ensemble et si je te pose la question, c'est pas pour te mettre mal à l'aise, c'est parce que j'ai envie qu'on parte d'un bon pied, qu'on parte sur un bon début. Et donc, est-ce que tu pourras m'aider autant que tu peux? Et vous savez, vous avez l'impression qu'elle a beaucoup d'expérience, mais elle en a peut-être pas tant que vous croyez non plus, hein.
Mm-mm.
Ça.
D'accord.
Voilà, Lossénie. Voilà. Excellente journée. Excellente journée à Abidjan. On va repartir pour la République démocratique du Congo, pour Kisangani, avec Géribé en ligne avec nous. Bonjour, Géribé.
Bonjour, madame. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Le docteur Solano vous écoute. Allez-y.
Voilà. J'ai deux petites questions.
Oui.
La première, j'ai 9 ans et depuis 5 ans, je vois des transformations qui se font dans mon corps et je réalise que mon pénis ne se développe pratiquement pas. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire une taille de 4 à 5 cm en repos et 8 à 9 cm en érection. Alors, ça me gêne beaucoup lorsque je vois une taille un peu trop grande à celle de mes amis. Et j'ai l'impression que mes amis se moque de moi, bien qu'ils ne me disent pas ouvertement.
Alors, pourquoi vous avez cette impression? À cause de leur regard? À cause de leur silence? Pourquoi? Parce que vous dites, ils ne se moquent pas de moi, mais j'ai l'impression qu'ils se moquent de moi. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire, lorsqu'on fait des conversations, lorsqu'une fois nous sommes aux toilettes, même si la conversation continuait, et lorsque nous sommes mis aux toilettes, typiquement, lorsqu'ils me voient, la conversation est rompue brutalement et leur silence me gêne beaucoup. Ils ne me disent aussi rien.
Alors, la ligne est un petit peu hésitante, hein. Ça coupe, mais on a compris l'essentiel. Je vais résumer dans une formule peut-être qui va sembler un petit peu brutale, mais c'est bien ça. Vous êtes complexé par la taille de votre pénis, tout simplement.
Oui.
Oui, c'est ça. Docteur oui, Solano, qu'est-ce que vous dites à cet auditeur? On a dit il a 19 ans, et puis il s'inquiète du jugement du regard des autres.
Alors d'abord, je vais vous demander, quel est votre poids? Est-ce que vous êtes mince ou est-ce que vous avez des kilos en trop?
Non, moi je suis mince.
Vous êtes mince. Je vous demande ça parce que des fois, le pénis paraît plus petit quand on a des kilos en trop parce qu'il y a de la graisse au niveau du pubis. Donc ça, c'est pas ça. Et donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est je vais vous dire les mesures normales du pénis. Hein, la taille. Alors, le pénis, ça se mesure au repos. On doit tirer dessus deux fois avant de le mesurer. Parce que par exemple, s'il fait froid, il va se rétracter. Et si on le mesure et qu'il a froid, on va se dire il est tout petit alors que c'est parce qu'il aura juste froid, il sera
recroquevillé. Mais quand vous dites normal, c'est pas un jugement moral. On est bien là sur l'œil du médecin qui a l'observation avec des statistiques.
Voilà, exactement. Je vais vous dire même, je vais vous citer les chiffres d'une étude sur 15 000 hommes. On a mesuré les pénis de 15 000 hommes sur tous les pays de la planète, un peu. Hein. Voilà. Donc, je vous dis d'abord comment le mesurer parce que ça peut fausser beaucoup les résultats quand on le fait pas bien. Ensuite, la mesure se fait à partir de l'os du pubis, pas à partir de la peau. Donc, il y a 1 ou 2 centimètres dans la graisse du pubis parce que l'os du pubis, bah, il est un petit peu amorti par une couche de graisse. Donc, il faut vraiment mesurer à partir de l'os. Donc, les mesures au repos à l'âge adulte, c'est entre 6 et 12 centimètres au repos. Donc, à partir de 6 cm, c'est normal. Et on considère que c'est anormal en dessous de 5,2 cm. Et donc, c'est une étude qui date de 2015 hein, sur 15 000 hommes par Ville et Miles, deux chercheurs. Donc, si vraiment vous mesurez votre pénis en l'ayant étiré, en comptant les centimètres au niveau du pubis et qui fait moins de 5,2 cm, disons moins de 5 cm, là, il faut que vous consultiez un médecin parce que à votre âge, ça peut se soigner si jamais il y a une anomalie, hein, en donnant des hormones qui stimulent l'agrandissement du pénis. Parce que j'ai entendu une chose aussi, ça vous avez dit, ça fait 1 ou 2 ans que je vois mon pénis se modifier. Donc, est-ce que vous n'avez pas eu une puberté un petit peu tardive? Parce que vous avez 19 ans, si votre puberté a commencé à 17 ans, c'est un peu plus tard que la moyenne, mais c'est pas forcément gênant, chacun son rythme.
Ça veut dire que la puberté n'est peut-être pas terminée.
Elle n'est peut-être pas terminée. Hein? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez commencé à avoir des poils, etc., ou de la barbe un peu...
Jerry Beck.
Oui, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Ça fait plus de 2 ans.
Oui.
Ouais, d'accord. Donc
oui, plus de 2 ans.
Plus de 2 ans. Donc moi, je pense qu'il faudrait que vous consultiez un médecin pour ça, pour lui demander son avis, parce que s'il y a quelque chose à faire, bah c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas dans 3-4 ans.
Ça peut être au niveau des hormones, c'est ça?
Voilà, ça peut être un manque d'hormones masculines. Et du coup, par exemple, moi j'ai un patient qui a eu ce problème, vraiment un pénis qui était trop petit anormalement. Et ben quand il était à votre âge à peu près, il a eu un traitement hormonal et son pénis a grandi de la taille. A atteint une taille normale. Hein. Donc, je ne suis pas sûre que vous ayez une anomalie parce qu'il faut le mesurer par un médecin.
Est-ce que vous auriez, parce que ce n'est pas forcément évident, est-ce que vous pouvez aller voir un médecin et lui en parler? Ce n'est pas trop compliqué?
Bon, je pourrais.
Vous pourriez. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc le mieux, c'est d'aller en parler à un médecin. Il pourra soit vous apporter des solutions, soit discuter avec vous simplement pour vous rassurer.
Ok. Et puis, alors une deuxième, si vous le permettez.
Et puis je vous rajoute une chose. Avant, mesurez vous-même votre pénis en l'ayant tiré 2 fois et en partant bien de l'os et pas de la peau. Mm-mm. Vous voyez, enfoncez la règle. Il faut une règle rigide pour être sûr. Parce que si vous dites finalement il fait 6,5 cm, ça veut dire qu'il est normal. Vous voyez.
Sans se faire mal. Oui, vous avez une autre question, Jerry B. Allez-y.
Oui. Oui. Non, alors, il paraît que j'ai tombe souvent dans des photos avec un pornographique.
Oui.
Alors, ce n'est pas du tout mon habitude de regarder des photos pornographiques.
Oui.
Il paraît que ça m'arrive un peu lorsque des fois je tombe dans certaines photos directement,
oui.
Automatiquement, j'éjacule. Alors, je n'arrive pas à arrêter ça car ça a une force dont je ne maîtrise pas. Alors, je voudrais demander que c'est un peu normal d'avoir des éjaculations un peu brutales.
Alors, c'est normal parce que justement, quand vous dites « je regarde pas de pornographie, mais ça m'est arrivé quelquefois de tomber dessus », votre cerveau n'est pas du tout habitué à ce genre d'image qui est exagéré et donc il a une réaction exagérée. Alors que quand vous serez avec une jeune femme, que vous ferez des câlins et tout, ça sera progressif et ça se passera beaucoup plus naturellement, ça ira plus doucement, vous voyez ?
Oui.
Voilà, Géry B, on vous souhaite une bonne journée à Kisangani. On va essayer de faire passer un maximum d'auditeurs parce qu'il y en a plusieurs qui attendent encore. On rejoint le Mali, la ville de Ségou, avec Demba en ligne avec nous. Bonjour Demba.
Bonjour madame.
On vous écoute, allez-y.
Bonjour docteur Solano.
Bonjour Demba.
En fait, j'aimerais exposer un problème. Ma femme est enceinte de bientôt 8 mois. Bon, elle a un ventre assez conséquent. Bon, ça gêne un peu les rapports. Depuis un peu de temps, on n'en fait plus de rapports. Donc, j'ai peur qu'elle pense que ça, c'est qu'elle ne se sente pas désirée. Et que ça soit un problème dans le couple.
Vous en avez parlé avec elle, Demba, ou pas du tout?
Non.
Non.
Je l'évite.
Vous évitez de parler de ce genre de sujet avec votre épouse?
Non, ce n'est pas ça. Lorsqu'elle me provoque, je l'évite parce que je me dis que ça dérange l'enfant.
Ça veut dire, vous dites provoque, vous voulez dire quand elle essaye de vous séduire, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Eh bien, vous avez de la chance d'avoir une femme comme ça déjà, à 8 mois de grossesse. Mais oui, c'est vrai, il faut le dire. Alors, ce que je peux vous dire, la première chose, c'est que la plupart des couples n'ont pas de rapport sexuel pendant le dernier mois de grossesse. Parce qu'elle arrive dans les 8 mois, vous voyez, elle est en fin de grossesse. Et les rapports sexuels ont tendance à diminuer au fil de la grossesse, tout simplement parce que la femme peut être fatiguée. C'est pas pratique avec un gros ventre. On a peur de faire mal, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose d'anormal. Et je pense qu'il faut absolument que vous lui disiez, tu sais, j'ai peur de déranger le bébé. En fait, je vous le dis honnêtement, ça le dérange pas spécialement, le bébé. Mais il y a énormément d'hommes qui ressentent comme vous, qui ont peur de déclencher l'accouchement alors que ça le fait pas, hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, qui ont peur de faire mal au bébé alors qu'il est très bien protégé, qui ont peur aussi que le bébé les entende, les écoute, qui ont l'impression qu'il y a une troisième personne dans le lit et ça les bloque un petit peu. C'est très fréquent. Alors, c'est pas bien grave parce que ça va durer qu'un mois ou deux, mais il faut lui dire, écoute, j'ai peur de te faire mal, j'ai peur de déranger le bébé, ne crois pas que je te désire pas, et quitte à lui faire des caresses, mais pas à faire de pénétration, évidemment, à pas vous mettre dessus elle et d'appuyer sur son ventre, ça c'est clair. Donc je pense qu'il faut vraiment
communiquer.
Ouais, communiquer, parce qu'en plus je sens que votre femme vous aime et vous désire. Vous dites, oh, je suis embêtée, j'ai peur qu'elle croie que je veux plus d'elle ou que je la désire plus, alors qu'en fait c'est simplement que vous avez les angoisses naturelles du futur papa.
Est-ce que vous allez trouver la force, Demba, d'aller lui dire simplement et puis de la rassurer, puisque vous en avez envie de la rassurer?
Oui.
Eh ben, on vous souhaite bonne continuation et puis bientôt bienvenue à ce petit bébé qui va grandir à ses goûts. On prend un dernier auditeur, hein, il nous reste 5 minutes environ. On retrouve Ismaël Abdoulaye qui est à N'Djamena au Tchad. Bonjour Ismaël Abdoulaye.
Oui, bonjour.
Il nous reste pas beaucoup de temps, mais on est là pour vous écouter, surtout le docteur Solano qui va répondre à votre question. Allez-y.
Et bonjour docteur.
Bonjour à vous.
Ma question est de savoir si je ne résiste pas, surtout pas au préliminaire. C'est-à-dire, si on fait les caresses par-ci, par-là, et puis après, on fait tout le monde comme ça, j'éjacule dans les vitres.
Donc, vous voulez savoir pourquoi ça se passe comme ça et avoir des conseils, c'est bien cela?
Oui.
Docteur Solano.
D'accord. Alors, très souvent, la plupart du temps, quand un homme dit « moi, j'ai une éjaculation qui vient pendant les préliminaires, avant la pénétration », c'est parce que les préliminaires sont trop excitants. C'est-à-dire que c'est des préliminaires trop sexuels. C'est-à-dire qu'il y a des caresses sur la zone sexuelle, des baisers sur la zone sexuelle, etc. Et donc, une des solutions, c'est de commencer par faire des préliminaires qui sont assez longs et surtout pas sexuels. Une vingtaine de minutes, que votre femme vous fasse des préliminaires à vous, qu'elle vous caresse la tête, le visage, le cou, les épaules, les pieds, les mollets, les mains, mais pas la zone sexuelle. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, quand l'excitation est uniquement sexuelle, eh bien, on explose vite. Il y a vite l'éjaculation. Si l'excitation va dans tout le corps, eh bien, ça prend beaucoup plus de temps et ça vient moins rapidement. Donc, c'est ça que je vous conseille vraiment d'insister sur les caresses, les câlins, avant d'aller vers le sexe.
Voilà ce conseil, Ismaël Abdoulaye. On vous souhaite une excellente journée à N'Djamena. J'ai une dernière question. Question Facebook d'une auditrice du Congo Brazza, de Brazzaville, c'est Fleur. Elle nous dit, elle nous écrit sur la page Facebook de l'émission, « J'aimerais savoir comment aborder la sexualité avec des plus jeunes. Je suis la grande sœur, la grande des filles de la maison, mais je ne sais pas comment aborder ce sujet avec mes petites sœurs qui sont toutes les deux en pleine adolescence, sachant que personne va le faire à la maison à cause des tabous. Hein. » Est-ce que vous pouvez m'orienter? Ça va m'aider.
Oui, alors déjà, c'est super de voir une jeune femme comme ça. Elle va devenir plus tard une maman super. Elle expliquera, il n'y aura pas de tabou. Donc, je pense que la première chose à faire pour elle, c'est de s'informer elle-même. Parce que si vous voulez, quand on est très jeune, j'imagine qu'elle a 18, 19, 20 ans, quelque chose comme ça, déjà, c'est bien de vouloir parler, mais pour dire quoi? Donc, soit de s'acheter un livre, soit de trouver des sites internet. En France, on a des sites du gouvernement qui sont très sérieux et donc on est certain que c'est des informations qui sont bonnes, quoi.
Voilà. Parce que l'inquiétude, ça peut être aussi des fois d'aller un peu trop vite et finalement de répondre à des questions que certaines jeunes filles ne se posent pas.
Voilà. Alors justement, exactement, Caroline, pour ça, je trouve que la première chose à faire pour parler à des toutes jeunes filles, c'est de parler des règles, des pertes blanches, de leur dire, hey, tu sais, tu vas avoir tes règles si elles les ont pas, voilà comment ça se passe, d'expliquer les serviettes, tout ce qu'on veut, etc. Et puis de dire, est-ce que tu as des questions là-dessus ?
C'est ça, être à l'écoute.
Voilà. Ensuite, de dire, il y a des pertes blanches quand on est à l'adolescence, c'est-à-dire que dans le fond de la petite culotte, on trouve des pertes. Expliquer ce que c'est. Et puis, expliquer aussi l'attirance, que quand on est attiré par un garçon, eh ben, c'est pas forcément de l'amour. Ça, c'est important aussi. Et petit à petit, d'être à l'écoute et de s'informer en même temps. Et puis, de leur dire, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je saurais peut-être pas vous répondre.
S'il y a quelque chose qui vous tracasse, venez me le dire.
Voilà. Et puis, si je sais pas vous répondre, je vais chercher les réponses. Mmh. Parce qu'on n'est pas obligé de répondre à la minute.
Donc, établir un bon dialogue, et c'est une très très bonne idée. On vous remercie infiniment pour toutes ces réponses, docteur Catherine Solano, vous voulez ajouter quelque chose?
Remarque valable pour tous les parents qui ont des ados aussi, pas que pour les grandes sœurs.
Voilà, c'est fait, le message est passé. Merci pour toutes ces réponses à nos auditeurs. On vous retrouvera jeudi prochain pour d'autres conseils à nos auditeurs. Toutes ces questions que vous pouvez nous adresser sur la page Facebook de Priorité Santé. Notre émission qui touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise, Juliette Brault, Ophélie Lassen, Steven Hesley, aujourd'hui Donatien Cahu. Demain, état des lieux, Covid-19, les chiffres, la prévention, les traitements, ce sera dès 9h10 temps universel. À demain, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.